En fait, je fais des recherches dans le domaine de l'écologie des communautés, et donc en milieu tropical et en écologie d'eau douce. Et dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse particulièrement aux impacts des activités humaines sur la biodiversité des cours d'eau. Donc, cela inclut les poissons, mais aussi tous les mammifères qui vont fortement dépendre de l'eau, comme par exemple les loutres. Et donc tout cela en Guyane.
Alors pourquoi justement la Guyane?
La Guyane a un contexte assez particulier et assez intéressant, parce que c'est le territoire qui présente le plus faible taux de déforestation de toute l'Amazonie. Donc on a à peu près moins de 1% de la surface déforestée en Guyane. Et pourtant, on arrive quand même à mettre en évidence la grande vulnérabilité des écosystèmes d'eau douce, puisque même cette faible déforestation, elle va générer un déclin très important de la biodiversité, notamment chez les poissons et également chez les mammifères.
Déforestation, on a du mal à imaginer, nous, de loin, ce que ça veut dire sur l'eau. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes de réflexion sur pourquoi la déforestation a un impact sur les milieux aquatiques ou sur l'eau?
Alors en fait, c'est parce que c'est les raisons pour lesquelles on déforeste en Guyane. Et la principale menace qui génère la déforestation, c'est l'exploitation aurifère, donc l'exploitation de l'or, qui se fait de manière illégale et de manière légale. Les problématiques sont très fortement liées à l'orpaillage illégal, puisque ça va être une activité minière qui va être faite sans aucun respect des normes, et notamment avec de l'extraction de l'or avec du mercure. Donc ça va être tout ce qui va être le côté écotoxicologique, mais c'est pas celui qui m'intéresse dans ma thèse. Moi, je m'intéresse aux changements écologiques, donc c'est-à-dire les changements environnementaux. Et donc, pour faire de l'orpaillage, on doit mettre en place un site où on va générer de la déforestation, mais on va également extraire l'or qui va se retrouver dans les sédiments, donc dans le lit de la rivière. Ça, c'est ce qu'on appelle l'or alluvial. Et donc, dans ces cas-là, en fait, on va générer un très fort changement des conditions physico-chimiques de l'eau. Donc, notamment, il va y avoir une augmentation de ce qu'on appelle la turbidité. C'est la concentration de sédiments qui va être en suspension dans l'eau. Et en fait, ça va changer l'apport lumineux qu'il va y avoir dans l'eau. Et donc, ça va faire vraiment des impacts en cascade, avec notamment une diminution de la productivité primaire. Donc, moins de photosynthèse et de développement des algues. Et donc, ainsi de suite, il va y avoir un impact sur les poissons qui se nourrissent de ces ressources. Et ça va remonter, en fait, tout le long de la chaîne alimentaire.
Est-ce que vos recherches vont vous amener à potentiellement aboutir à des conclusions qui pourront être transcrites sur d'autres territoires que la Guyane ou que l'Amazonie?
Oui, dans un cadre amazonien, c'est également aussi la raison pour laquelle on s'intéresse à la Guyane, c'est que c'est un territoire qui est suffisamment petit pour être étudié dans sa totalité, mais qui va également faire face à des problématiques qui vont être similaires en Amazonie. Et donc, finalement, c'est comme un mini laboratoire grandeur nature. Et donc, effectivement, on peut tout à fait faire des parallèles entre les recherches que nous on fait et ce qui est fait dans le reste de l'Amazonie, et même de manière plus généralement dans les milieux tropicaux. D'ailleurs, les résultats que nous avons dans nos recherches sont assez similaires à certains contextes qu'on peut également retrouver sur le continent africain ou même ailleurs en Amérique du Sud. Et on retrouve aussi les mêmes tendances avec de forts déclins de biodiversité malgré des impacts humains qui spatialement sont relativement restreints.
Alors, des recherches qui se font en laboratoire, mais aussi sur le terrain. Femme scientifique baroudeuse, donc vous n'êtes pas si nombreuses, hein, au final, dans le monde à pouvoir faire ça.
En tout cas, effectivement, en tout cas dans le contexte de ma thèse, c'est un travail à deux visages, puisqu'il y a toute la partie que je réalise en laboratoire et celle qui se fait sur le terrain. Dans ma discipline, en écologie, on est quand même relativement beaucoup de femmes, mais par contre, les disparités sont quand même bien observables dans d'autres disciplines de la science, par exemple, notamment dans tout ce qui va être sciences fondamentales. Et puis effectivement, moi-même, quand je fais des campagnes d'échantillonnage, je suis très souvent entourée d'hommes. Effectivement, il y a des disparités, mais qui sont quand même moins fortes dans mon champ disciplinaire de recherche.
Vous venez d'être récompensée par la Fondation L'Oréal UNESCO. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vos recherches? Qu'est-ce que ça va impliquer?
Alors, différents aspects. La première des choses, c'est que, bien entendu, c'est une belle valorisation de nos travaux de recherche, parce que c'est un projet qui a été développé même avant ma thèse, et on a eu une longue période où on devait adapter notre méthodologie d'échantillonnage. Et en fait, ce travail, notamment, qui a été mis en avant pour la bourse, c'est le premier grand travail en écologie que l'on peut faire. Donc, c'est une belle gratification. Et dans un second aspect, ce qui est intéressant, c'est donc la contribution, ou du moins le prix en lui-même, qui lui me permettra d'aller plus loin dans les recherches de ma thèse, mais aussi de mettre en place un atelier de médiation scientifique autour de cette thématique de recherche. Et donc c'est un atelier que j'aimerais pouvoir diffuser principalement en Guyane, mais également en France métropolitaine.
C'est-à-dire un projet de médiation envers le grand public?
Oui, alors ce sera notamment destiné aux jeunes.
Quelles sont les prochaines étapes à venir dans vos recherches?
Alors moi, donc là, je suis en fin de doctorat, donc je termine les dernières recherches que j'ai en cours. Je suis également maintenant attachée de recherche et d'enseignement, donc cela me laisse en fait un an de financement pour pouvoir terminer ma thèse, mais aussi essayer de mettre en place un projet de post-doctorat. Donc l'idée, ce serait de pouvoir continuer dans la recherche. Et le fait de pouvoir mettre en place un projet, c'est que ça me donnera la liberté de pouvoir choisir le projet et de le façonner en fonction de ce qui m'intéresse. Et donc pour ça, en fait, ça va impliquer de faire des demandes de financement à différentes institutions qui, justement, proposent des financements pour la recherche.
Que diriez-vous à une jeune fille aujourd'hui qui voudrait se lancer peut-être dans une carrière scientifique, mais qui hésiterait?
C'est une bonne question. Dans un premier temps, je dirais que la voie scientifique leur est toute ouverte. Et en fait, surtout que les sciences, elles peuvent s'adapter à la diversité des profils qui vont l'appliquer et non pas seulement l'inverse.